VOA Afrique, les infos. À Washington.
John Linden à la présentation. Bonsoir à tous. L'état d'urgence en vigueur au Mali et qui devait expirer ce samedi a été prorogé de 6 mois jusqu'au 31 octobre 2017 par l'Assemblée nationale. Cette mesure d'exception a été instaurée à plusieurs reprises dans le pays depuis l'attaque djihadiste contre l'hôtel Radisson Blue de Bamako le 20 novembre 2015, une attaque qui a fait 20 morts, outre les 2 assaillants tués. Salif Keita et d'autres chanteurs africains ont donné un concert gratuit hier à Abidjan pour sensibiliser les populations du continent au sujet des risques environnementaux du réchauffement climatique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Suite de notre série sur le président américain Donald Trump qui célèbre ce samedi les 100 premiers jours d'une présidence marquée par de nombreux défis, le 45e président des États-Unis, dont l'élection surprise face à Hillary Clinton a étonné la planète, peine à concrétiser ses promesses de campagne. Donald Trump entretient aussi des relations moins apaisées avec la presse qu'il qualifie de fake news, des informations montées de toutes pièces par les médias. Selon lui, ceci concerne surtout certaines révélations qui semblent écorner l'image de sa présidence. C'est notamment l'interférence russe présumée dans les élections qui aurait aidé Donald Trump à les gagner. Beaucoup de questions restent sans réponse, mais le FBI et le Congrès enquêtent sur une collusion éventuelle. Le rappel des faits avec Lionel Gaïma.
Le 10 janvier, les hauts responsables des renseignements américains ont témoigné pour la première fois devant une commission du Sénat sur les efforts russes en vue de saboter la dernière présidentielle américaine. James Clapper, ancien directeur de services secrets. Nous croyons fortement que le président Poutine a ordonné une campagne d'influence en 2016. Ses objectifs étaient d'amoindrir la foi au processus démocratique américain, dénigrer Hillary Clinton et réduire ses chances à la présidence. Monsieur Poutine et le gouvernement russe ont affiché une nette préférence pour Trump, le président élu. Putin and the Russian government also developed a clear preference for President-elect Trump. Il y a beaucoup d'accusations, mais très peu de preuves dans le plus gros scandale à secouer Washington depuis plusieurs années. Après plusieurs semaines de bibille, il y a eu la démission du conseiller de Trump à la sécurité nationale, le limogeage de la ministre intérimaire de justice et la décision du président de la commission du renseignement de la Chambre de se récuser de ses enquêtes liées à ce scandale. Finalement, le directeur du FBI rend public ce qui était déjà l'objet des supputations en disant que son agence avait commencé une enquête sur la Russie en juillet dernier. I have been authorized by the Department of Justice to confirm. J'ai obtenu le feu vert du ministère de la Justice pour que le FBI mène des enquêtes sous les efforts du gouvernement russe visant à interférer dans les élections de 2016, ce qui inclut la nature d'éventuels entre des individus associés à la campagne de Trump et le gouvernement russe. Donald Trump a qualifié ces accusations de canulars, affirmant que le vrai scandale, c'est la surveillance que l'administration Obama aurait ordonnée sur lui et ses associés pendant la campagne de l'année dernière.
It's all fake news.
Ce sont des fausses nouvelles, Mais pour Richard Benveniste, ancien procureur dans le scandale de Watergate, l'enquête sur Trump, c'est du sérieux. Ça met en relief les vulnérabilités de notre démocratie et des autres démocraties dans le monde sur des techniques d'interférence, le piratage informatique, la désinformation et plusieurs sortes de perturbations dont nous devons être protégés. Et les parlementaires américains veulent aller jusqu'au bout et aussi longtemps que cela prendra. Richard Burr, président de la commission du Sénat sur le renseignement. On ne dira jamais assez ce que la mission de la commission, qui est de passer à la loupe toutes les activités que la Russie a pu mener pour altérer ou influencer les élections de 2016 aux États-Unis. Et la commission sénatoriale sur les renseignements est l'une des 5 entités qui doivent regarder de plus près cette interférence russe. 7 employés de cette commission doivent passer en revue des milliers de documents classés secrets. Une 20aine de témoins seront interrogés, dont Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump. Le FBI a refusé de commenter, mais le mois dernier, son directeur James Comey a affirmé qu'il est franchement impossible de dire le temps que l'enquête prendra.
Fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'indispensable émission interactive de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Alors, le rôle et la place de la femme dans la médiation des conflits fonciers, c'est notre sujet. J'ai avec moi dans le studio et en direct sur Facebook, Anaïs Capu, responsable de programme pour l'Afrique centrale, orientale et australe à Search for Common Ground. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci Nathalie pour votre invitation.
Alors, vous dirigez notamment les partenariats et l'élaboration de programmes pour des projets de résolution de conflits en Afrique. Vous travaillez dans 11 pays, entre autres. On peut citer les pays qui nous intéressent particulièrement et que vous connaissez bien, le Burundi, la RDC, Madagascar, le Rwanda, la Tanzanie et le Zimbabwe. Vous avez travaillé pour le bureau onusien du conseiller spécial pour la prévention du génocide et pour le ministère français de la Défense. Et vous êtes experte en analyse de conflits et construction de la paix. Donc c'est un grand plaisir de vous avoir pour parler de ces problèmes fonciers en Afrique, qui sont des problèmes assez intéressants. Tout d'abord, Anaïs, pourquoi les femmes dans la médiation des conflits fonciers, quel intérêt ?
Oui, donc c'est une bonne question. Tout d'abord, donc Search met en œuvre dans la région des Grands Lacs, comme vous venez de l'évoquer, donc au Burundi, en République démocratique du Congo et au Rwanda, un projet régional qui vise justement à renforcer la participation des citoyens dans tout ce qui est la résolution pacifique des conflits fonciers. Mais donc quelque chose qu'on a observé, c'est que souvent, traditionnellement, ces rôles de médiateurs fonciers sont en fait souvent remplis par des hommes, pour différentes raisons liées aux coutumes, à la culture, etc. Donc nous, dans le cadre de notre projet, nous avons voulu travailler bien sûr avec les médiateurs fonciers, donc souvent des hommes, mais également promouvoir la participation des femmes dans le cadre de ces médiations foncières. Donc avoir finalement des institutions qui représentent plus les communautés qu'elles servent, donc à la fois avec des hommes et des femmes médiateurs et médiatrices.
Donc en fait, vous avez beaucoup à faire même aux chefs coutumiers qui généralement sont des hommes.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a différentes institutions. Il y a les chefs coutumiers, mais nous travaillons aussi avec des médiateurs traditionnels. Donc par exemple, au Rwanda, il y a donc des abunzi qui sont des médiateurs traditionnels qui sont élus. Okay. Et donc on a vu qu'au Rwanda, on a des quotas pour avoir une représentation des femmes de 30%. Mais à travers donc le travail que nous avons fait, on a vu qu'en 2015, aux dernières élections de ces abunzi, on est passé à un taux de 44% de femmes médiatrices. Donc on voit que grâce à notre travail, au travail d'autres acteurs, on a de plus en plus de femmes qui jouent un rôle dans ces médiations foncières. Et donc nous, notre travail, c'est à la fois d'encourager cette participation, mais de s'assurer aussi que les femmes ont les capacités, les connaissances et la confiance pour pouvoir vraiment jouer ce rôle de médiatrice. Donc nous faisons des formations. Nous faisons aussi des programmes radio pour montrer finalement que ça marche, que ces femmes sont en mesure, comme les hommes, de résoudre ces conflits fonciers. Et donc les gens ont ainsi plus confiance à la fois dans les hommes et les femmes.
Elles arrivent à bien se faire accepter par la communauté d'une manière générale en tant que médiatrice.
Voilà, donc forcément il y a des obstacles qui peuvent être parfois différents de se rencontrer par les hommes. Mais nous, le travail qu'on fait, c'est vraiment avoir, par exemple, si on fait une formation de médiateur, on va avoir à la fois des hommes et des femmes ensemble. Donc comme ça, elles peuvent vraiment montrer aussi leur capacité. Et on renforce en fait les relations entre les médiateurs hommes et femmes. Et donc ceux-ci, comme ça, se voient comme des pairs, comme des égaux. Et petit à petit, en montrant justement, comme je disais, par la radio, des cas de médiation qui ont été menés par les femmes, la communauté a de plus en plus confiance dans les femmes médiatrices. Donc on a fait une étude récemment en République démocratique du Congo qui a montré que les cas de médiation des femmes étaient de plus en plus réussis.
Donc ça marche bien. Voilà. Ça marche bien. J'ai trouvé des extraits d'un mémoire sur Mémoire Online d'un monsieur qui s'appelle Emmanuel Caguissier qui a écrit un document sur le Burundi en 2006, justement sur l'accès à la terre par les femmes, les problèmes de conflits fonciers. Et il dit: la coutume burundaise en matière successorale bloque l'adoption de la loi sur les successions tenant compte de l'égalité de l'homme et de la femme. Ça, c'est un problème qu'on qu'on retrouve un petit peu partout, un mémoire vraiment, vraiment très intéressant. Et on imagine effectivement que la femme a plutôt intérêt à s'intéresser et s'investir dans cette question, n'est-ce pas, puisqu'elle est en réalité la première concernée, on va dire. Elle est exclue, elle est victime de discrimination, elle est mise à l'écart des questions d'héritage d'une manière générale.
Oui.
Dans la presse.
Deux Afghans et un Suédois ayant commis un viol en Suède retransmis sur Facebook ont été condamnés à la prison ferme. Reza Mohamed Hamadi, 21 ans, a écopé de 2 ans et 4 mois pour viol et complicité de viol. Et Maïsam Afsar, 18 ans, d'un an de prison. Emil Kodagoli, un Suédois de 24 ans, a été condamné à 6 mois de prison pour atteinte aggravée à l'intégrité de la victime, car il a filmé et diffusé le viol et n'a pas empêché ni dénoncé le crime. Selon le président du tribunal d'Uppsala, il a même encouragé les deux violeurs et ri pendant l'agression. Il a déclaré ne pas avoir été le seul à filmer et ignorer que la victime n'était pas d'accord pour que ces images soient diffusées. Selon l'AFP, les trois hommes ont été condamnés à payer à la victime 35 000 euros de dommages et intérêts. Anaïs, on revient sur notre sujet, les femmes mises à l'écart de ces problèmes de succession. Vous avez des cas particuliers à nous citer, par exemple, dans lesquels vous pensez que vraiment la médiation féminine est plus qu'importante?
Tout à fait, oui. Ce qu'on a remarqué souvent, c'est que donc on a fait des enquêtes justement auprès des personnes qui avaient bénéficié de ces médiations, et on a remarqué que souvent les femmes finalement avaient un rôle particulier et peut-être privilégié à jouer dans le cadre de médiations foncières qui vont impliquer des questions familiales. Donc souvent dans les pays qui nous concernent aujourd'hui, les conflits fonciers vont être des conflits qui vont être intrafamiliaux, donc qui vont opposer certaines personnes au sein d'une même famille. Et on a remarqué justement que les femmes, parce qu'elles sont au cœur de ces familles, elles ont une meilleure connaissance de ces dynamiques familiales, elles vont finalement avoir une position privilégiée pour régler ces conflits qui sont parfois extrêmement finalement tendus parce qu'ils sont au sein d'un ménage, au cœur d'un ménage.
Est-ce qu'elles ont moins tendance à trop tirer la couverture de leur côté, du côté de certaines familles par rapport à d'autres? Est-ce qu'elles seraient peut-être un petit peu plus objectives? Certains observateurs m'ont déjà dit ça. Mmh. C'est pour ça que je pose cette question.
Après, oui. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qui va être inhérent à être une femme ou être un homme. À travers nos formations, nous, c'est quelque chose sur lequel on met vraiment l'impact. Donc, tout ce qui est la partie avant, vraiment la médiation même, qu'on apprend finalement aux médiateurs comment écouter les parties, comment analyser le conflit, comprendre les causes profondes et justement être capable de mener une bonne médiation. Mais c'est vrai qu'il y a des cas, par exemple, souvent une femme, elle va trouver donc une femme qui va être victime, qui va rechercher un appui d'un médiateur, elle va peut-être être plus confortable, va se sentir plus à l'aise d'exprimer ses problèmes auprès d'une médiateur femme.
D'accord. Et vous avez aussi le problème des terres des rapatriés, des déplacés dans cette région, parce que vous êtes bien spécialisée dans la région des Grands Lacs, et là c'est vraiment un phénomène. Enfin, on a des populations déplacées depuis des dizaines d'années et ça n'arrête pas. Et comment on règle tous ces problèmes-là quand on se retrouve, on revient chez soi? C'est partout en Afrique, hein, quand il y a des problèmes de conflit, on revient chez soi, c'est le voisin qui est dans la maison, sur le terrain, ou quelqu'un d'autre. Et comment ça se passe, tout ça?
Tout à fait. Non, en effet, j'ai parlé un peu des conflits entre familles, mais c'est vrai qu'un des autres grands facteurs de conflit foncier dans la région, ce sont ces cas entre réfugiés ou aussi déplacés internes. Donc c'est vrai que ce sont des choses complexes auxquelles on forme nos médiateurs également. Mais je dois dire aussi que le travail de Search for Common Ground, finalement, c'est la transformation des conflits, non pas seulement des conflits fonciers, mais finalement également de ces questions de réconciliation, de ces questions du vivre ensemble des communautés. Donc c'est vrai que tout ce travail de médiation dans les cas de déplacés, de réfugiés, etc., il passe aussi par reconstruire ces relations qui ont pu peut-être être un petit peu impactées par ces conflits. Donc c'est vrai que ça fait partie du travail de médiation aussi. Et puis après, c'est vraiment écouter les différentes parties, essayer de trouver trouver une solution qui va permettre aux deux parties d'être finalement gagnantes. C'est ça qu'on recherche dans notre travail.
On imagine que c'est un sujet extrêmement complexe.
Voilà, vraiment. tout à fait.
D'ici, ouais.
Et c'est vrai que donc nos programmes de formation que nous faisons, notre accompagnement, c'est pas seulement sur la technique de médiation, mais c'est aussi, comme je le disais, sur tout ce qui est ces autres éléments de comprendre le conflit. On fait des formations très locales. Donc ce projet dont je vous ai parlé, qui est fait au niveau régional, les formations vont être un peu différentes selon qu'elles sont données au Burundi, au Rwanda, au Congo, pour vraiment s'adapter aux problématiques.
Ouais.
Oui, et puis aux problématiques de, comme vous le disiez, donc dans ce cas, si on a des conflits liés au déplacement de population.
Alors je reviens sur mon mémoire, le mémoire que j'aime bien là de ce monsieur. Il a écrit: comme dans d'autres régions où l'organisation familiale est patriarcale, la coutume burundaise exclut les filles de la succession au profit du privilège de la masculinité. Seuls les enfants mâles peuvent prétendre à une part successorale. Généralement, même dans les cas où il n'y avait aucun mâle successible, les biens devaient passer aux enfants de la ligne parallèle. Alors c'est amusant. Enfin, on parle de coutume, mais on sait aussi que dans ces cultures, dans plusieurs cultures africaines, c'était pas forcément patriarcal. Il y a aussi beaucoup de cette influence finalement de lois du colon les lois du colon étaient des lois extrêmement patriarcales aussi. Mm-hmm. Donc
non, c'est sûr que c'est compliqué. Et puis on parle de la coutume, on parle de la loi, c'est effectivement une problématique qui est très importante.
Dualisme.
Voilà, c'est ça. Donc et puis par exemple dans le cas du Rwanda récemment, il y a eu une nouvelle loi sur la famille qui dit justement que dorénavant une femme peut également hériter au même titre que ses frères, mais la loi n'est pas forcément connue. Donc c'est une chose d'avoir une loi qui est passée au niveau de la capitale, mais c'est autre chose que celle-ci soit connue au sein d'une famille. Donc c'est vrai qu'on travaille également sur ces techniques de médiation, etc. Mais à travers donc nos programmes radio, nous travaillons également sur des programmes qui finalement vont sensibiliser les gens sur ces différentes lois.
Parole de femme.
Une gouvernance foncière inclusive pour un développement durable était le thème du Forum national sur le foncier au Togo cette année, visant à adopter un nouveau code en la matière qui puisse garantir notamment l'accès des femmes à la terre. Alors Kayi Lawson, notre correspondante, s'est rendue à ce forum à Lomé.
Depuis 2 ans, le Togo s'est engagé dans un processus d'élaboration d'un nouveau code foncier. Fiatou Osisenu, ministre togolais de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie.
Nous voulons voir si vraiment toutes les préoccupations liées au foncier ont été prises en compte dans cet avant-projet en cours d'élaboration avant son adoption.
80% des affaires qui pendent devant les tribunaux togolais sont relatifs au foncier. La Fondation Konrad Adenauer fait noter que 91,80% des accords issus d'un règlement devant une autorité traditionnelle sont respectés. Pour le chef du canton de Bay, les chefs traditionnels doivent être consultés dans le règlement des litiges fonciers. Togbui Louis Mauko à Classou 4.
Il faut que la justice essaie de nous consulter. Nous avons une voix consultative. Nous disons que c'est notre décision qui doit primer sur la justice, mais il faut que la justice consulte les chefs traditionnels pour pouvoir mieux trancher les litiges.
Pour les défenseurs des droits de la femme, ce forum doit également se pencher sur l'accès des femmes à la terre au Togo. Claire Quenom, présidente de Women in Law and Development in Africa, WILDAF Togo.
La terre est un moyen de production, surtout en milieu rural. Et une femme agricultrice qui n'a pas la terre ne peut pas travailler et avoir un revenu consistant. Et l'accès à la terre garantit la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. Il faut que la femme aussi ait les moyens de production.
Avec une population féminine agricole estimée à près de 2 millions, le nouveau code foncier ne doit pas négliger cette frange importante de la population active si son objectif est de soutenir la croissance du pays, analyse l'agro-économiste Ayao Madri Sambi.
Si les femmes qui cultivent la terre représentent environ 52% ou bien plus de 51%, ça veut dire qu'elles sont les piliers du développement agricole au Togo. Que pour booster l'agriculture togolaise, il suffit de mettre des moyens productifs à leur disposition. Et quand nous parlons des ressources productives, nous parlons de l'accès de la femme à la terre de qualité, des terres assez fertiles.
Le Togo s'inspire des expériences du Maroc, du Botswana et du Tchad en matière de sécurisation du processus d'attribution des titres fonciers. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Anaïs, alors ce problème en fait de litiges fonciers, on le retrouve un petit peu partout en Afrique, hein, de multiplication de litiges fonciers et les systèmes judiciaires qui sont débordés. Alors vous avez parlé tout à l'heure, vous avez bien fait la différence, c'est important effectivement, droit coutumier, droit pénal, enfin le droit civil. Et finalement, vous êtes au milieu de tout ça en fait. Vous devez faire un petit peu le lien entre les deux, c'est ça peut-être l'objectif aussi, non ?
Tout à fait, oui, c'est, ouais. C'est quelque chose qu'on fait toujours dans nos programme, c'est vraiment avoir un processus qui est inclusif. Donc dans le cadre de nos formations, dans le cadre de nos échanges, dans le cadre du travail vraiment qu'on fait sur le foncier, on travaille avec tous ces différents acteurs. C'est très important pour nous de travailler avec des médiateurs traditionnels, mais également avec les autorités locales, également avec la justice, également parfois avec la police. Donc vraiment vraiment s'assurer qu'on inclut toutes les différentes parties qui peuvent jouer un rôle dans ce cas de la médiation, et bien sûr aussi s'assurer que les femmes ont leur place dans tout ce processus.
Au niveau du Rwanda, est-ce que le génocide n'a pas exacerbé toutes ces questions justement de droit foncier? Est-ce que c'était pas pire après au niveau de tous ces problèmes de territoire, parce que on sait déjà que le génocide, une des causes du génocide est également le fait que on sait que le Rwanda est un tout petit pays avec beaucoup de monde.
Voilà, en fait. Oui, je crois que c'est ce qui se passe. Si on voit le cas du Burundi et du Rwanda, ce sont des pays qui sont extrêmement densément peuplés. Ouais. Par exemple, le Burundi, il est prédit selon les modèles actuels que d'ici 2022, sa population aura doublé. On a vu aussi qu'au cours de ces dernières 30 années, à peu près, la taille de la parcelle moyenne a diminué, s'est divisée en deux, ce qui est vraiment énorme quand on y réfléchit. Donc c'est vrai que la problématique de la pression foncière est très importante dans ces pays avec des populations qui augmentent et par définition un pays qui n'augmente pas. Donc comme les gens aussi sont très dépendants de la terre et l'agriculture vivrière est très importante, c'est vrai que ce sont des choses qui touchent vraiment un grand nombre la population.
Si jeunesse pouvait.
L'insécurité dans la région du Grand Kasaï en RDC a un impact dévastateur sur les enfants, a alerté l'UNICEF. 600 000 ont été déplacés de leur foyer pour échapper à la violence. Je vous propose, Anaïs, d'écouter Yves Villemot, responsable de la communication à l'UNICEF en RDC.
Il y a des enfants qui sont en contact direct avec la violence. Il y a des enfants qui sont blessés dans les combats. Il y a des enfants qui sont utilisés par les milices. Il y a des enfants qui ont perdu le contact avec les parents. On estime qu'aujourd'hui, il y a plus de 4000 enfants qui sont des enfants non accompagnés, donc qui n'ont plus le contact direct avec leurs parents. On estime qu'aujourd'hui, il doit y avoir environ 2000 enfants qui sont encore à l'intérieur des milices. Et puis, il y a l'impact indirect de la crise au niveau des enfants, dans la mesure où la crise et la violence ont un effet dramatique au niveau des services de base. Des écoles ont été détruites. Nous comptons plus de 350 écoles sur les trois provinces du Kasaï qui ont été détruites. Dans le Kasaï central, il y a une aire de santé sur trois qui ne fonctionne plus. Donc l'impact indirect de la crise au niveau de la santé et de l'éducation des enfants ainsi qu'au niveau de la protection des enfants est dramatique.
Au niveau des enfants qui sont utilisés par les milices, est-ce que vous parvenez à les approcher éventuellement et à convaincre donc les groupes armés de les libérer ?
À ce jour, je peux vous dire que nous comptons 384 enfants que nous avons pu libérer, qui étaient des enfants détenus, qui étaient des enfants utilisés par les milices et pour lesquels nous mettons en place aujourd'hui un accompagnement intégré qui inclut un processus de recherche de leurs parents, qui inclut également un appui au niveau psychosocial pour que ces enfants puissent retrouver le chemin vers une vie plus ou moins normale.
Et en ce qui concerne votre réponse d'urgence actuellement, pourriez-vous nous en dire plus ? En quoi quoi consiste-t-elle?
C'est plus de 23 000 enfants que nous avons déjà pu atteindre avec des programmes au niveau de la nutrition, de la santé, de l'éducation, de la protection. Et nous prévoyons également des programmes de soutien en cash aux populations en détresse afin qu'ils puissent augmenter leur niveau de résilience et de capacité de répondre aux besoins auxquels ils font face aujourd'hui. Cependant, il est clair que nous faisons face à un manque de financement. Aujourd'hui, nous avons 3,5 millions de dollars à notre disposition pour organiser notre réponse d'urgence au CACEI. Nous estimons avoir besoin de au moins 20,6 millions de dollars.
Et oui, et c'est la jeunesse prouvée.
Anaïs, The Search for Common Ground, je vois que vous avez pris beaucoup de notes, vous avez beaucoup de papiers ici là devant vous. Il y a des programmes en particulier sur lesquels vous voudriez vous exprimer, des points en particulier que vous voulez exposer. Je suis sûre qu'il y a des choses importantes à dire.
Oui, je le disais, je pense que ce qui est intéressant par rapport à notre travail sur ces questions foncières et sur justement la place de la femme, c'est cet aspect régional qu'on veut vraiment mettre en avant. Les relations dans la région sont parfois complexes au sein de ces trois pays. Donc nous, on essaie vraiment aussi d'avoir cette approche régionale Grand Lac. Et donc le projet qu'on met en œuvre avec ces médiateurs, justement, il a cette dimension et il permet finalement aux médiateurs des trois pays de se rencontrer, d'échanger régulièrement et de montrer que finalement, voilà, quelque chose peut marcher, peut-être partager aussi les difficultés que chacun rencontre, parce que nous venons d'écouter ce qui se passe dans certaines régions, voilà, du Congo par exemple, qui sont compliquées. Donc c'est vrai que ce travail est fait dans des conditions vraiment difficiles, donc c'est important pour nous de montrer que c'est possible, voilà, de garder l'espoir et de montrer qu'on peut changer les choses de manière pacifique.
Entre parenthèses.
Moins de victimes de viol au Nord Kivu en RDC, selon notre correspondant qui a rencontré des filles et des femmes prises en charge à l'hôpital Heal Africa, qui enregistre toutefois encore un nombre élevé de cas, soit 40 à 60 par mois. Écoutons notre correspondant Charlie Kazereka à Goma.
La grande majorité des victimes qui sont soignées ici arrivent des milieux ruraux où les groupes armés font encore la loi. Elisabeth, 22 ans, handicapée de son état, regard perdu, assise dans une chaise roulante, elle a été violée à deux reprises et engrossée par les rebelles de la région de Beni. Malheureusement, après l'accouchement, elle souffre de la fistule.
Ils sont arrivés dans le village, tout le monde avait déjà fui. Moi, je n'ai pas réussi à m'enfuir comme je suis handicapée. Ils m'ont violée. Et la deuxième fois, ils ont même emporté aussi l'argent que je gardais à côté.
En plus des traumatismes subis par l'acte, certaines d'entre elles ne peuvent plus rentrer dans leur milieu d'origine suite au stigma érigé. Au centre Heal Africa, l'accompagnement n'est pas seulement médical. Elles sont aujourd'hui une quarantaine dans l'atelier de coupe et couture, accompagnées de leurs encadreurs, chacune d'elles avec son histoire. Ici, tout est question de technique, douceur et tolérance pour ces victimes devenues vulnérables dans leur propre communauté.
Dans cet atelier, nous formons les mamans comment coudre les vêtements. Nous avons choisi de les former pour leur épargner de la vulnérabilité. Et puis aussi pour être en charge. Aujourd'hui, nous encadrons 40 personnes. Toutes sont vulnérables.
Les multiples sensibilisations et les renforcements des lois en la matière ont favorisé la chute des cas de violence à l'est de la RDC. Docteur Justin enregistre tous les nouveaux cas ici à Heal Africa, les grands centres hospitaliers.
Anaïs, on arrive au terme de cette émission. Le mot de la fin en 15 secondes.
15 secondes. Ben, quelle que soit la difficulté des conflits auxquels on fait face, toujours privilégier les approches de collaboration.
Merci beaucoup. Merci. Anaïs Capu de Search for Common Ground. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.